Bonjour à toutes et à tous. Content effectivement de revoir ceux qui étaient en vacances et qui semblent bien reposés. En tout cas, voilà, c'est un moment que nous allons passer ensemble à pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Mais je voudrais dire au préalable que depuis hier, avec Damaris, nous avons le cœur lourd. En ayant appris qu'un de nos anciens camarades de Liben avait rejoint le Seigneur. Un ami aussi, un frère. Notre cœur est lourd parce que nous n'aurons plus l'occasion sur cette terre de passer du temps avec ce frère. Il avait 31 ans. Mais nous sommes consolés par l'espérance que Dieu nous donne de le revoir un jour. Dans des circonstances beaucoup plus heureuses, aux côtés de notre Seigneur. Et cet après-midi, nous étudierons le dernier texte de notre série de l'été sur les paraboles de Jésus. Ça a été l'occasion d'aborder divers thèmes, tels que notre rapport à la parole de Dieu. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me dire de quelle parabole il s'agit? Ce rapport à la parole de Dieu? C'était la parabole du semeur. Il était question aussi de l'amour du prochain. C'est quelle parabole déjà? Le bon samaritain. La joie de Dieu quand un pécheur se repent. La parabole de la brebis perdue et retrouvée. Et puis, la gestion de l'argent. C'était quoi ça? Donc c'est alors parfois on appelle ces paraboles un peu différemment de l'intendant malhonnête ou du gestionnaire astucieux, bon, comme vous l'entendez, ce qu'on avait vu il y a 2 semaines avec Yoxas. Donc différents thèmes abordés dans ces paraboles, et vraiment ça nous a permis de pouvoir aborder tous ces thèmes au fur et à mesure. Et aujourd'hui, le thème de notre texte, je pense que vous l'avez compris à la lecture, c'est le pardon. Et quand il s'agit d'évoquer le pardon, cela réveille peut-être des histoires que l'on préfère oublier. Des rancœurs qui sont peut-être encore tapies au fond de nous. Cela nous rappelle ces relations brisées qui nous affectent encore aujourd'hui. Et bien que le sujet du pardon soit vaste et concerne toutes nos relations avec autrui, croyants et non-croyants, je me limiterai cet après-midi au cas particulier du pardon à l'égard du frère ou de la sœur qui m'a offensé. Parce que c'est ce dont Pierre et Jésus parlent dans notre texte, du pardon que l'on accorde à notre frère, à notre sœur qui nous a offensés. Rappelons que la structure de l'évangile de Matthieu, alors c'est peut-être un peu petit, alterne entre des récits narratifs où on raconte comment Jésus avançait dans son ministère, comment le royaume de Dieu était proclamé. Et puis de l'autre côté, des grands discours, des grands moments où Jésus enseignait la foule. Et donc Matthieu nous rapporte à la fois des récits et à la fois des discours. Et ce plan, je l'ai simplement tiré de la Bible d'études du semeur. Et au chapitre 18, ce qui nous concerne, le chapitre 18 constitue le quatrième discours sur les cinq que nous retrouvons dans cet évangile. Le quatrième discours au sujet de la communauté que Jésus est en train de constituer durant son ministère. Cette communauté qui est d'ailleurs déjà désignée dans ce chapitre 18 par le mot Église. Comment se comporter les uns envers les autres au sein de cette communauté du royaume? Eh bien, c'est dans ce cadre. Dans le cadre de ce discours, que le sujet du pardon est abordé. Et si nous regardons juste le verset 15, un peu avant notre texte, voici ce que nous lisons. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et la suite évoque le cas où le frère en question ne se repent pas, ne reconnaît pas sa faute et ce qu'il faut faire. Et Pierre profite de ce moment où Jésus parle du pardon, eh bien, Pierre en profite pour poser une question. Et les textes que nous avons lus est structuré d'une manière assez simple. Nous avons une question, une réponse et une parabole. Donc le plan d'aujourd'hui est assez simple. Une question, une réponse, une parabole. Et je vous propose de commencer par la question. Verset 21, « Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Question étonnante, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, je pense que quand on entend ce genre de questions, ça peut nous étonner un petit peu. Est-ce que nous sommes en droit de nous demander combien de fois nous devons pardonner à quelqu'un ? Et en l'occurrence, un frère ou une sœur. Est-ce que vous vous êtes déjà donné des limites ? Par exemple, la prochaine fois qu'il recommence, je ne lui pardonnerai pas. Est-ce que vous êtes déjà donné ce genre de limite à votre pardon ? La prochaine fois qu'il recommence, cette fois-ci, je ne lui pardonnerai pas. Certains commentateurs rapportent que dans les discussions qu'il y avait entre les rabbins de l'époque, pardonner 3 fois une personne, c'était déjà faire preuve d'indulgence. Si vous pardonniez 3 fois une personne, vous étiez déjà quelqu'un de plutôt indulgent. Et peut-être que Pierre avait vent de ce genre de discussion, mais il ose suggérer une rallonge. Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ? Peut-être que là, on commence à être quelqu'un de bien, jusqu'à 7 fois. Et sans doute que la question nous fait un peu sourire. Est-ce qu'on va pardonner une personne jusqu'à 7 fois ? Voyons la réponse de Jésus, que vous connaissez déjà. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Et certains proposent de traduire « jusqu'à 77 fois », ce qui est la traduction que je retiendrai. Jésus répond à Pierre d'une manière très précise, mais sans doute pas comme il l'attendait. Peut-être que Pierre s'attendait plus à ce que Jésus confirme. Oui, jusqu'à 7 fois, c'est suffisant et c'est déjà très bien. Mais Jésus dit non, jusqu'à 77 fois. Faut-il comprendre qu'arrivé à la 78e fois, la personne a dépassé les bornes et que nous ne pouvons plus les pardonner ? Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de dire ici ? Ou bien, est-ce que Jésus est en train de faire comprendre à Pierre et à ceux qui étaient présents à ce moment-là, qu'il ne s'agit pas d'une histoire de calcul. Le nombre est symbolique. Nous savons que dans la Bible, le chiffre 7 est un chiffre symbolique. Autrement dit, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut commencer à calculer, mais bien au contraire, il s'agit en fait de ne pas compter le nombre de fois où nous devons pardonner à nos frères et sœurs. Certains commentateurs relèvent que Jésus prend peut-être ici le contre-pied de ce qu'avait dit un jour les mecs. Ça vous dit quelque chose, les mecs ? C'est dans la Genèse. Les mecs, un descendant de Caïn. Caïn, ça vous dit quelque chose ? Fils d'Adam. Qu'est-ce que les mecs avaient dit dans Genèse 4 ? Voici ce qu'il dit à ses femmes. « Ada et Tsila, écoutez-moi, femmes de les mecs, prêtez attention à ce que je dis. » C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Donc peut-être une allusion. Mais Jésus prend le contre-pied. Parce que ici, dans ce texte, Lémec parle de vengeance, là où Jésus parle de pardon, en reprenant le nombre symbolique de 77 fois. Oui, tu dois pardonner à ton frère ou à ta sœur en Christ jusqu'à 77 fois ou 70 fois 7 fois, autrement dit de manière illimitée. Et Jésus va raconter une parabole pour illustrer ce qu'il vient de dire là. Frères et sœurs, est-ce ainsi que nous concevons le pardon dans l'Église ? Un pardon qui ne se compte pas sur les doigts de nos mains. Nous avons des caractères différents. Certains ne tiennent pas rigueur longtemps, oublient facilement, rapidement, et d'autres sont plutôt rancuniers. Et comme je ne vous connais pas particulièrement dans ce domaine, je dis cela de manière un peu générale. Mais nous avons très certainement des caractères différents. Mais à tous se pose cette question du pardon, que nous sommes prêts ou non à accorder à notre frère, à notre sœur en Christ, qui nous a déjà blessés ou qui nous blessera un jour. C'est un sujet sensible, n'est-ce pas? Et pourtant, Jésus ne craint pas d'en parler et d'affirmer ce qu'il attend de ses disciples, un pardon illimité. Avant de poursuivre notre lecture de Matthieu 18, je vous propose de regarder un texte parallèle dans l'évangile de Luc, qui aborde le même thème. Dans Luc chapitre 17, au verset 3 et 4, eh bien, Jésus dit ceci, « Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois il revienne vers toi et dise, « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » Là non plus, il ne s'agit pas de calculer et de changer d'attitude à la 8e fois. À chaque fois que ton frère ou ta sœur reconnaît qu'il ou elle a péché contre toi, tu lui pardonneras. Ce texte et celui de Matthieu 18 me paraissent clairs par rapport à l'idée que pour vivre une pleine expérience du pardon, il faut que l'autre se repente. Il faut que l'autre s'engage à changer d'attitude. Sinon, comment pouvoir lui faire de nouveau confiance? Dans certains cas, ce sont même les deux qui ont des péchés à confesser, des torts à reconnaître. Et certainement qu'il manque quelque chose dans le processus quand cette reconnaissance de tort n'a pas lieu. Certes, nous pardonnons et notre cœur est plus léger, mais s'il n'y a pas de repentance de la part du fautif, nous n'avons traité que la blessure que cela nous a infligée. Mais nous n'avons pas traité la dette du péché. Nous nous sentons mieux, mais l'autre n'a toujours pas compris son péché, la dette qu'il a à notre égard. Il me semble que lorsqu'il n'y a pas de repentance, l'expérience du pardon est incomplète. Nous avons peut-être traité notre blessure, mais il manque quelque chose. C'est que l'autre, en péchant contre nous, s'est endetté à notre égard. Et il faut régler cette dette. Et c'est ce que nous allons voir par la parabole que nous avons lue tout à l'heure. Parce que justement, dans cette parabole, il est question de... De quoi ? Il est question de dette. Et il est question de remise de dette. Heureusement, il y a aussi cet aspect-là, de dette et de remise de dette. Et alors que nous abordons cette parabole, essayons de comprendre pourquoi nous devrions toujours pardonner à nos frères et sœurs en Christ. Retenez bien la question. Pourquoi devrions-nous toujours pardonner à nos frères et sœurs en Christ? Vous avez peut-être déjà des éléments de réponse en tête. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Qu'auriez-vous fait à la place de Corrie ten Boom? Vous connaissez cette femme? Ça vous dit quelque chose? Qu'auriez-vous fait à la place de Corrie ten Boom? Qu'auriez-vous fait à la place de cette chrétienne qui a vécu les horreurs du camp de concentration de Ravensbrück? Qu'auriez-vous fait à sa place alors que l'un de ses anciens bourreaux s'est retrouvé en face d'elle? Ce surveillant qui avait été bien cruel à son égard, qu'il avait sans doute fouetté plus d'une fois, et ce jour-là, à Munich, en 1947, alors qu'elle était venue annoncer l'Évangile, cette chrétienne, eh bien ce jour-là, cet homme s'approche d'elle, parce qu'il est présent ce jour-là, et il lui dit... En ayant entendu la mention de Ravensbrück, ce camp de concentration, il lui a dit « J'étais surveillant là-bas ». Bien sûr, Corrie ten Boom l'avait reconnu, Mais voilà ce qu'il dit. J'étais surveillant là-bas. Mais depuis lors, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné toutes les cruautés que j'y ai commises. Mais j'aimerais l'entendre aussi de votre bouche. Et voici ce qu'elle a écrit par rapport à ce moment si difficile pour elle, à ce moment-là. Ce moment où elle est face à son ancien bourreau. Voici ce qu'elle écrit. « Je savais bien qu'il fallait que je lui pardonne. Je priais en silence. Jésus, aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main. Ça, j'en suis encore capable. Mais c'est à toi de me donner l'amour. » C'est ainsi, continue-t-elle de dire, c'est ainsi que d'un geste raide et mécanique, je posais une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. Et voici ce qu'elle dit à ce bourreau, à cet ancien bourreau. « Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. » Pourquoi devrions-nous toujours pardonner à nos frères et sœurs ? La question n'est pas soulevée explicitement par Jésus, mais il me semble que le Seigneur y répond par la parabole que nous appelons la parabole du serviteur impitoyable. L'histoire que Jésus raconte est une histoire de dette et de remise de dette. Et nous avons sans doute besoin de comprendre certains éléments pour nous rendre compte en quoi cette histoire est incroyable, au moins dans sa première partie. Parce qu'en effet, nous avons ce roi qui veut régler ses comptes. L'un de ses serviteurs lui doit une somme au point où nous demandons comment il a pu s'endetter à ce point-là. Au verset 24, il est question de ses 10 000 sacs d'argent, littéralement 10 000 talents. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond, 10 000 talents ? Comme c'est une unité monétaire qui ne nous parle plus, je vous propose de calculer un petit peu. On va faire un peu de maths. Un talent, à l'époque, était l'équivalent de 6 000 deniers. Ok, un denier, c'était le salaire d'une journée de travail pour un ouvrier agricole. Donc si on calcule, 10 000 talents, ça fait combien de deniers ? J'entends pas très bien. Alors ça fait beaucoup déjà, ça c'est sûr. Ça fait 60 millions de deniers. Donc combien de journées de travail ? 60 millions. Est-ce que vous imaginez une telle dette ? Alors bien sûr, le but de la parabole n'est pas forcément d'être totalement réaliste ou plausible et de nous dire « mais comment une personne peut s'endetter à ce point-là » Mais 60 millions de deniers. Et dans ces conditions, le roi n'a que d'autre choix d'ordonner, de vendre ses serviteurs avec sa famille, avec tout ce qu'il possède. Et même là, ça ne devait pas suffire pour rembourser sa dette. Et désespéré, le serviteur demande un délai de grâce. Mais en fait, qui est totalement absurde par rapport à la dette qui est là. Quand il dit « Je te paierai tout !»« Ah bon ? Vraiment ? À quel moment ? Comment comptes-tu rembourser 60 millions de journées de travail ?» Une vie ne suffirait pas. Et je ne sais pas combien de vies il faudrait. Mais regardez le verset 27. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Voilà la première surprise de notre texte, de notre parabole. Ce maître, à qui on doit 60 millions de deniers, se laisse toucher par la situation totalement désespérée de son serviteur. Il sait très bien que ce dernier ne pourra jamais lui rembourser. Mais il entend sa supplication. Il est rempli de compassion et il change d'avis. Ce serviteur ne sera pas vendu. Il peut partir. Il n'a plus rien à rembourser. Et le contexte qui entoure cette parabole, forcément, nous amène à comprendre que ce que cette scène signifie, pour des pécheurs comme nous. Tout comme ce roi a remis sa dette à ce serviteur surendetté, Dieu, dans son amour et dans sa compassion, nous a remis notre dette. Celle de nos péchés. Oui, lorsque nous péchons, c'est comme si nous cumulions des dettes à l'égard de celui que nous avons offensé. Une dette qui doit être réglée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les dettes doivent être réglées. Ô combien nous avons péché contre Dieu ! Et ô combien notre dette ne pouvait être remboursée ! Nous ne pouvions rien faire pour nous racheter. Et pourtant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu remet notre dette. Autrement dit, Dieu pardonne de telle sorte que nous n'ayons rien à payer. Et comment Dieu peut-il pardonner de cette manière? Vous connaissez la réponse. À cause de Jésus. À cause de Jésus qui a payé pour vous et pour moi du prix de sa vie à la croix. Le seul moyen pour que la dette soit effacée de l'ardoise de Dieu. Le seul moyen. Bien entendu, tout cela n'est pas encore sous-entendu derrière cette parabole. Mais le lecteur attentif de l'évangile de Matthieu se souviendra de ce que l'ange a dit à Joseph à propos de Jésus. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Joseph à propos de Jésus ? Matthieu chapitre 1. Donc c'est la slide suivante. Un petit souci. Oh. C'est bon. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle, c'est-à-dire Marie, mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À propos de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi cette dette peut être effacée. Voilà pourquoi il n'y a plus rien à payer. Jésus est né parmi les hommes pour régler le problème du péché qui nous endettait vis-à-vis de Dieu. Il s'est sacrifié prenant sur lui nos péchés pour nous obtenir l'acquittement, le pardon de Dieu. Et Dieu l'a relevé d'entre les morts, attestant que désormais son sacrifice est valide pour nous sauver. Et tout à l'heure, nous chantions à juste titre, et Samuel a aussi prié à ce sujet, « Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? Si tu comptais les dettes que nous avons envers toi, qui vivrait ? » Mais dans sa grâce, cette faveur qui nous est imméritée, Dieu ne tient plus compte de nos péchés contre lui. Il ne les retient plus pour nous condamner. Il nous a pardonnés lorsque nous sommes venus à lui, reconnaissant que nous étions des pécheurs. Et il nous pardonne encore et encore toutes les fois que nous reconnaissons que c'est contre lui que nous avons péché. Même lorsque nous péchons contre notre prochain, c'est Dieu qui est aussi offensé. Quelle générosité, quelle grâce de la part de notre Dieu. Et nous en prenons encore conscience cet après-midi. Et voici la deuxième partie de l'histoire, avec une deuxième surprise. Ce serviteur gracié croise l'un de ses débiteurs, qui est un compagnon de service, et ce dernier lui doit quelques 100 pièces d'argent, c'est-à-dire 100 deniers. C'est-à-dire combien de journées de travail ? 100 ! Une dette bien modeste comparée aux 10 000 talents de tout à l'heure. Et la surprise, La deuxième surprise ici dans cette histoire, c'est la réaction de ce serviteur. Pour le moins violente. Est-ce que vous avez vu le verset 28? Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois ». Je ne sais pas ce que vous pensez d'une telle réaction. Bien sûr, il était dans son droit de réclamer son dû. Voilà, on lui doit de l'argent, c'est normal qu'il le réclame. Mais de cette manière-là, on peut trouver que c'est un peu contestable, non ? Et malgré les supplications de son compagnon, ce serviteur, comme le titre de la parabole l'indique, se montre impitoyable. Et à l'époque, effectivement, on pouvait jeter quelqu'un en prison pour une question de dette non remboursée. Quel contraste entre l'attitude du roi plein de compassion, qui a remis une dette tellement colossale, et l'attitude de ce serviteur sans pitié, qui sévit pour une dette beaucoup plus dérisoire. Quel contraste! Et ce contraste, le roi, qui a été averti par d'autres, va le faire remarquer à son serviteur. Verset 32. « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et le reproche est dit à juste titre. Je pense qu'on est d'accord avec ce roi. Comment celui qui a été gracié d'une dette qu'il ne pouvait même pas payer a-t-il pu agir ainsi sans cœur ? Le roi rappelle ce qu'il a fait. « Je t'avais remis en entier 60 millions de deniers, en entier ta dette. » À la question que je posais tout à l'heure, pourquoi devrions-nous toujours pardonner à nos frères et sœurs ? Nous avons là un premier élément de réponse. Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés de nos péchés. Lorsque quelqu'un nous a fait du tort, nous nous focalisons souvent sur ce que cette personne nous doit, en oubliant que Dieu nous a remis notre dette. Si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est bien parce qu'il nous a pardonné en premier. Et cette expérience du pardon de Dieu n'est pas rien, à moins que nous n'ayons rien compris. Et c'est précisément là que nous en venons à la pointe de cette parabole, au message principal qui répond aussi à notre question. Parce que Jésus compare la sentence du roi qui livre au bourreau son méchant serviteur à ce que Dieu fera si nous ne pardonnons pas à notre tour. Relisons cette mise en garde au verset 35. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » À quelles conditions Dieu pourrait ne pas pardonner ? Verset 35, « Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Nous préférons souvent évoquer le pardon de Dieu. Mais savez-vous que Dieu peut ne pas pardonner ? Et l'idée a déjà été mentionnée plus tôt dans l'évangile de Matthieu. Si nous lisons au chapitre 6, versets 14 et 15, Jésus disait, après juste avoir enseigné à ses disciples la prière du Notre Père, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, qu'est-ce que va faire votre Père ? Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Peut-être qu'on, parfois on lit trop rapidement ces versets. Peut-être même qu'à l'instant même, vous êtes un peu interpellé ou choqué de vous dire tout d'un coup, mais Dieu peut ne pas pardonner. Oui, Dieu est un Dieu de grâce et il pardonne volontiers. Il pardonne généreusement lorsque nous nous repentons. Mais n'a-t-il pas raison aussi de ne pas pardonner si nous retenons notre pardon à l'égard des autres ? Est-ce que Dieu n'a pas raison de ne pas pardonner si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas aux autres? Est-ce que nous pourrions attendre autant de Dieu au point d'abuser de sa bonté qu'il nous pardonne alors que nous, nous ne sommes pas prêts à le faire? Si nous avons réellement compris ce que Dieu a fait pour nous, cette remise de dette incroyable, cela devrait être suffisant pour pardonner à notre frère, à notre sœur, qui ne nous a pas offensés autant que nous l'avons fait à l'égard de Dieu. Rappelez-vous la différence de dette entre les deux serviteurs. Votre frère, votre sœur, ne vous a pas offensé autant que vous ne l'avez fait vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, Dieu est prêt à vous pardonner. L'offense de mon frère reste un péché, et il faut appeler un péché un péché. Nous ne le nions pas, mais ce n'est pas un prétexte pour lui refuser notre pardon. S'il reconnaît son tort, s'il est prêt à ne pas recommencer, pourquoi ne pas lui accorder notre pardon? Et ce que Jésus dit au verset 35 est un avertissement sérieux. Non pas pour effrayer ses disciples, mais pour que nous prenions au sérieux le pardon qu'il nous appelle à accorder de tout notre cœur. C'est une chose sérieuse lorsque nous parlons du pardon. Et un pardon de tout notre cœur, d'une manière sincère, d'une manière réfléchie, à l'égard de notre frère, de notre sœur, en Christ. Pourquoi devrions-nous toujours pardonner à nos frères et sœurs? Eh bien, parce que Dieu traitera sévèrement ceux qui ne le font pas. Mais si nous sommes de ceux qui ont compris la grandeur de son pardon, nous ne serons pas de ceux qui retiennent le pardon. Si nous avons bien compris la grandeur du pardon de Dieu que nous avons reçu, nous ne retiendrons pas notre pardon à l'égard des autres. Et comment pourrait-il en être autrement au sein de la famille de Dieu, au sein du peuple de Dieu, au sein d'une communauté où chaque chrétien a bénéficié du pardon de Dieu? Comment pourrait-il en être autrement? Non seulement le serviteur impitoyable n'est pas l'exemple à suivre, mais il représente finalement celui ou celle qui n'a pas vraiment vécu le pardon de Dieu, qui n'a pas vraiment compris le pardon de Dieu. Voilà ce qu'est le serviteur impitoyable. Et voilà à quoi nous pouvons ressembler si effectivement nous n'avons pas compris à quel point Dieu nous a pardonné. Le Seigneur nous enseigne cet après-midi à avoir cette disposition de cœur, à pardonner, tout comme il pardonne si volontiers quand nous venons à lui. Est-ce que cela fait écho à une situation que tu vis? Dois-tu passer par ce chemin où il faudra parler avec celui ou celle qui t'a offensé? Peut-être que, à ce moment-là, tu es en train d'attendre que il ou elle vienne te voir pour s'excuser, pour te demander pardon. Mais est-ce que tu te demandes probablement si ce ne serait pas à toi de faire ce pas vers celui ou celle qui t'a offensé, pour qu'il reconnaisse qu'effectivement il est fautif à ton égard et pour que tu lui pardonnes. Et je parle bien de nos relations avec nos frères et sœurs, que ce soit dans cette église ou dans une autre église. Et bien entendu, si nous parlons à l'image du pardon de Dieu, cela implique que nous allions jusqu'à la réconciliation, tout comme nous sommes réconciliés avec Dieu. Dieu ne nous a pas juste pardonné, mais nous sommes réconciliés avec lui. Et si notre pardon est à l'image du pardon de Dieu, alors cela implique que nous allions jusqu'à la réconciliation. Et le sujet du pardon nécessite forcément qu'on puisse développer sur cette question de la réconciliation. Mais je vous suggère que sur ce point, parce que sinon je pourrais prolonger longtemps cette prédication, vous veniez simplement directement en parler avec les pasteurs, pour que nous puissions vous accompagner, vous conseiller dans cette démarche vers la réconciliation. Parce que ce n'est pas évident de reprendre la personne qui nous a offensés. Tout comme ce n'est pas évident de pardonner, surtout quand le tort commis nous a fait beaucoup de mal. Ce n'est pas évident de tendre la main à la personne qui nous a fait souffrir, qui nous a blessés. Mais comme Corrie ten Boom, nous pouvons résolument compter sur le Seigneur pour agir comme il nous le demande. Mes amis, si le Seigneur a touché du doigt quelque chose cet après-midi, n'en restez pas là. S'il est vrai que vous avez toujours quelque chose contre quelqu'un, n'en restez pas là. Ne vous dites pas « ça va passer ». Et l'apôtre Paul exhorte les chrétiens dans la même direction que le Seigneur. Dans deux textes, Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. » Et Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. » Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est bien parce que Dieu nous a donné son esprit que nous avons la capacité de pardonner d'une manière authentique. Que nous pouvons avoir une telle disposition de cœur. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible, effectivement. Mais parce qu'il nous a donné son esprit, c'est possible. Et le témoignage de Corrie ten Boom le montre. C'est possible. Grâce à Dieu. Et au sein de l'Église, le pardon, comme vous le voyez ici, doit être réciproque. Parce que nous sommes tantôt l'offenseur et tantôt l'offensé. Et tous, nous avons besoin de la grâce et du pardon de Dieu afin de pouvoir pardonner à notre tour. De tout notre cœur. En résumé, nous avons vu qu'à la question de Pierre, Jésus répond qu'il n'y a pas de limite dans le nombre de fois où nous devons pardonner à nos frères et sœurs. Et pourquoi devons-nous le faire ? D'abord, parce qu'il nous a grandement pardonné. De telle sorte qu'il serait ingrat de notre part de ne pas pardonner à notre tour. Et ensuite, parce qu'il ne pardonnera pas à ceux qui n'offrent pas leur pardon. Reconsidérons les motivations que je viens d'évoquer et laissons-nous convaincre par l'Esprit Saint du prochain pas à faire vis-à-vis de la personne qui nous a offensés, si c'est quelque chose que nous n'avons pas encore réglé. Et à coup sûr, d'après le Seigneur, d'après le texte d'aujourd'hui, si vous empruntez le chemin du pardon, vous serez sur la bonne voie. Car c'est ainsi qu'agissent celles et ceux qui lui appartiennent. C'est ainsi qu'agissent celles et ceux qui ont saisi les valeurs du royaume de Dieu. Amen.